Littérature sans frontières. Catherine Fruchon-Toussaint, Fanny Renard.
Bonjour à toutes et à tous. Où serons-nous dans 10 ans? Est-ce que la planète sera desséchée, inondée, confinée? Est-ce que les pesticides nous auront tous empoisonnés? Ou est-ce que la voix de celles et ceux qui résistent va enfin être entendue et suivie par le plus grand nombre? Personne ne peut répondre à ces questions, mais la fiction, elle, peut imaginer, envisager les contours de l'horizon à venir, en tout cas mettre le doigt sur ce qui ne va déjà pas aujourd'hui. Bonjour Philippe Dian.
Bonjour.
Dans votre nouveau roman, paru chez Flammarion, qui se déroule comme son titre l'indique en 2030, qui a une décennie près et presque demain, vous nous projetez dans un monde qui ressemble au nôtre, à la fois en pire, inéluctablement, où le climat est déréglé, l'économie plus puissante que l'écologie, mais peut-être en mieux, avec cette nouvelle génération qui ne s'en laisse pas compter, et en tête une jeune femme avec des nattes, qui après s'être insurgée à 15 ans contre la dégradation de notre monde est devenue la figure du grand rassemblement et une égérie pour une partie de vos personnages ici dans 2030. Greta Thunberg pour la nommer. Un mot sur le titre pour commencer peut-être, même si je sais que ce n'est pas ce que vous choisissez en premier, mais qui sonne quand même un peu ici comme une alarme ou comme une date de péremption et qui, quoi que vous l'ayez voulu, ne peut pas ne pas nous faire penser à 1984 de George Orwell. Philippe Dian.
Sauf que 1984, c'est une dystopie, c'est-à-dire que c'est un monde imaginaire qui se passe pas très bien, comme en 1984. Moi, c'est plutôt une uchronie. Vous savez, c'est comme le roman de Kadic, où c'est, on parle d'un fait qui existe, et puis on voit, ça peut partir, le maître du haut château de Kadic, c'est ça, en fait, c'est les Allemands ont gagné la guerre, qu'est-ce qui se passe? Mais ça part de quelque chose de vrai. Moi, évidemment que ça part de quelque chose de vrai, puisqu'on connaît tous les problèmes que vous venez d'évoquer, le climat, l'économie, et tout ça, on les connaît, ces choses-là. Et c'est pour ça que c'est... J'ai pas voulu au départ écrire un roman d'anticipation, même si c'est une petite anticipation. C'est simplement parti d'un truc tout bête. C'est que je me suis réveillé un soir et que je suis tombé, comme dans le personnage du roman, sur un reportage de Greta Thunberg. Et je pense que j'ai eu une espèce d'éblouissement, c'est-à-dire que son visage m'a parlé. Pas parce qu'elle disait, bon, j'ai compris après qui c'était et tout ça, mais sur le moment, il y avait une espèce de... C'était presque une image biblique. Ce visage, je sais pas pourquoi, c'est peut-être parce que c'est Asperger et tout ça, je sais pas. Mais toujours est-il que j'ai dit, elle me plaît, cette petite nana. Elle est, en plus, elle est pas contente et elle, et puis il y a eu d'un seul coup une espèce de rumeur comme ça des intellectuels français. Je pense que à l'étranger, ça s'est passé de la même manière, qu'on commençait à dire, mais de quoi elle se mêle, celle-là, cette petite nana, mais à 16 ans, moi qui en ai 70, j'en sais beaucoup plus qu'elle. Donc, de quoi elle se mêle? Et ça a été assez terrible. Et j'ai été assez... j'ai eu honte. Parce que c'est des gens qui ont mon âge, ces gens, ces intellectuels d'aujourd'hui qu'on voit à la télé toutes les 5 minutes. C'est à eux que j'ai envie de dire, mais de quoi, comment osez-vous? C'est ce qu'elle dit dans sa conférence à l'ONU, c'est « How dare you ?» Et moi, ça m'a... J'ai dit, mais de quoi eux se mêlent? C'est son avenir à elle. Bientôt, nous, on sera plus là. Dans 10 ans, certainement qu'en 2030, les 3/4 ou les 4/5 des gens de mon âge, on sera plus là. Peut-être. Peut-être pas. Mais bon, ça peut. Elle, on peut imaginer qu'elle a toute sa vie devant elle. Et sa vie, c'est ce qu'on va lui donner. La planète, c'est ce qu'on va lui donner. Donc, j'ai trouvé que c'était insupportable. Et je me suis demandé comment je pouvais parler de ça. Et je me suis dit, j'ai pas envie de prendre Greta Thunberg aujourd'hui et de la défendre, parce que j'allais pas envie d'en faire de mon livre une polémique avec ces gens-là qui me redisent « mais oui, mais vous comprenez, nanana ». Non, je veux pas leur parler, ils m'intéressent pas ces gens-là. Donc je me suis dit, je vais la prendre dans 10 ans. À mon avis, le climat, l'économie, ça ira pas plus mal. Ça ira mal, mais ça ira pas plus mal. Et la résilience de l'humain, on la connaît aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on va s'adapter à tout. Il va faire trop chaud. Ok, on va pédaler pour faire un peu d'électricité pour nos frigos et avoir des glaçons. On va pédaler, on aura plus peut-être de l'aspirine pendant un an, mais on en trouvera après. Donc, j'ai pas l'impression qu'on va aller de mal en pis. J'ai l'impression qu'on va aller dans des situations inconfortables qui seront pas drôles à vivre, mais qu'on va s'y habituer.
Alors si j'entends bien, en effet, Philippe Dian, c'est à partir de ce fait réel, de cette actualité, de cette personnalité de notre monde que vous commencez le livre. De la même façon que vous dites souvent que vos romans démarrent quand vous écrivez la première phrase. Alors ici, je vais la lire, la première phrase de 2030. Pour la première fois, et Dieu sait qu'il n'était pas d'une nature belliqueuse et ne s'était jamais ouvertement révolté contre les pratiques de son beau-frère, il défia celui-ci du regard et faillit lui balancer tout le paquet de feuilles à la figure. Fermez les guillemets. On entend bien ici qu'il s'agit d'un geste de colère.
Oui, sauf qu'il a failli. Il n'a pas été jusqu'au bout. Il a
mais
pas
néanmoins,
balancé.
Néanmoins, il y a une colère qui sourd dès cette première phrase. Est-ce que, en effet, c'est aussi la colère de voir ce que vous venez de nous dire de la façon dont Greta Thunberg a été malmenée par une certaine intelligentsia et de la colère aussi de voir ce qu'on est en train de faire, nous, tout simplement, à cette planète?
Ben, on fait n'importe quoi. Je veux dire, mais je suis assez étonné et j'ai presque le sourire aux lèvres quand je vois que, à quel point chaque jour il y a une idée nouvelle, que ce soit par rapport aux masques ou par rapport à n'importe quoi. Un jour on dit il faut les mettre, le coup il faut pas les mettre, et puis on sait pas pourquoi il faut les mettre, mais si on sait pas pourquoi il faut les mettre. Et tout le monde est épidémiologiste, tout le monde est machin bidule, et ils en savent pas plus que nous. Et c'est pour ça que des fois j'ai, par rapport au gouvernement, sans faire de politique du tout, je me dis, j'aimerais pas être à leur place. Ils savent pas ce qu'il faut faire. Et on ne saura pas. Personne sait ce qui va se passer.
Donc, Greta Thunberg, le scandale du glyphosate aussi, cet herbicide toxique que les gouvernements n'interdisent toujours pas, en dépit des ravages qu'il a sur la santé.
Parce qu'ils peuvent pas, parce que derrière, il y a des gens qui sont là en train de donner des nouvelles analyses et des trucs comme ça, où on se dit, on peut pas vraiment l'interdire, parce que soit les paysans, ils vont pas être contents, on va pas savoir ce qu'il faut faire, soit ça, c'est pas prouvé que c'est là. Donc il y aura toujours ça. Puis ça, et le temps passe, et le glyphosate, ça fait des années maintenant. Donc moi, j'invente un espèce de produit qui est à peu près le même. Ben, je fais pas beaucoup d'efforts pour trouver que, un nouveau produit qui va semer la pagaille au niveau du climat ou de je sais pas quoi, on va l'accepter. On va crier, on va aller faire des manifs, et puis 15 jours après, ça sera autre chose. Donc on est prêt à la résilience, encore une fois, humaine, elle est assez incroyable. On va tout accepter.
En tout cas, c'est le chaos. Aujourd'hui, c'est encore le chaos en 2030.
Ce sera le même.
D'où l'existence dans votre roman, Philippe Dian, de cette jeune fille, Lucie, 14 ans, qui est très active pour la défense de la planète, ce qui va bousculer un peu son oncle Greg, personnage pivot du roman, lequel va peu à peu, au cours du livre, changer d'attitude et peut-être regarder le monde autrement. En d'autres termes, lui qui travaille dans un laboratoire où on falsifie les tests va commencer à dire « je ne suis pas sûr », voire « non ». Et j'ai eu l'impression, en vous lisant, Philippe Dian, que c'était un roman sur le réveil. Le réveil d'une conscience.
Je rigole parce que j'ai l'impression que beaucoup de mes romans sont les réveils, moi. C'est toujours des personnages qui, à un moment, il y a quelque chose qu'ils comprennent. Parce que dans ma vie, ça a souvent été comme ça. J'ai compris des choses, pas sur le moment, j'ai compris après.
C'est le réveil d'un homme, d'une conscience.
C'est un réveil, mais qui est très compliqué. Parce que, par exemple, ce qui m'a amusé, c'était aussi de dire, est-ce que je fais d'Anton son patron, donc son beau-frère patron, est-ce que je vais en faire le type abominable dans son coin qui fait que des coups foireux? Et à un moment, il explique, il lui dit, écoute, tu sais, la société, elle était vraiment en péril. Il fallait qu'il y ait de l'argent qui rentre. Qu'est-ce que je fais à ce moment-là? Il y a une trentaine de familles qui travaillent à plein temps dans mon laboratoire. Si la boîte se casse la gueule, ces gens-là, ils sont à la rue. Et j'ai pas envie de voir, ou plutôt j'ai envie de voir ces enfants-là demain jouer avec leurs enfants dans un jardin, parce que c'est moi qui ai fait ce qu'il fallait, même si c'est pas terrible, qui ai fait ce qu'il fallait pour qu'ils gardent leur travail. Et d'un autre côté, il y a des gens qui vous disent, attendez, c'est quand même dingue ce qu'ils font, ils vont tuer des gens avec ce produit qu'ils ont laissé en vente. Donc, cornélien, c'est très cornélien, ça. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, le héros lui pense que non, il faut dénoncer ça et empêcher la preuve, c'est que le seul truc qu'il arrive à faire, c'est d'aller dans les supermarchés où il voit encore ce produit dans des bidons, tout ça, c'est de tout foutre en l'air et tout ça. C'est dérisoire. Et il n'y a pas de solution. Moi, je n'en vois pas. Je vois pas de solution.
Donc, votre roman est un peu presque comme un laboratoire où vous mettez en place 5-6 personnages différents et comment ils réagissent face à la situation. Donc il y a ceux qui sont en suspens, il y a ceux qui sont abattus, il y a ceux qui sont empêchés et puis il y a ceux qui crient haut et fort et qui emmènent avec eux de nouvelles personnalités.
Oui, mais regardez, si vous regardez, on va pas en parler parce qu'à chaque fois que je parle de la fin de mon roman, on me dit faut surtout pas parler de la fin du roman.
Non, bien sûr, en plus,
ça m'est égal de parler de la fin du roman. Enfin bref, c'est de me dire j'ai pas de solution.
Ouais.
J'en sais rien. Et c'est pour ça que mon livre se termine pas par ça y est, on a découvert la pilule miracle pour l'humanité, ni ça y est, il y a plus un seul humain sur Terre. Mais voilà, ça va super mal quand même. À quel point on s'habitue à ça? À quel point on s'habitue? On nous apprend il y a quelques jours encore qu'il y a la moitié de la biodiversité qui va disparaître, qu'il y a plus les animaux, maintenant on va aller les regarder à la télé quand c'est pas dans les zoos. On pourrait dire mais c'est abominable ce truc-là. Et vous et moi, on est là assis, et on dit « Oui, c'est abominable. Et qu'est-ce qu'on fait? On fait rien. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse ?»
Alors justement, il se trouve que Greg change aussi parce qu'il fait connaissance d'une femme, Vera, éditrice, qui elle aussi a de très fortes convictions écologiques et qui publie des livres militants. Est-ce que pour vous aussi, Philippe Jean, la littérature est un lieu où on peut défendre des causes? Et des causes politiques, par exemple, parce que l'environnement, c'est politique.
Si on est un écrivain qui est fait pour ça, oui. Moi, je suis pas du tout un écrivain qui est là pour défendre des causes politiques. Moi, je suis là simplement pour regarder comment est-il possible qu'un homme et une femme passent la moitié ou les trois quarts de leur vie ensemble. Moi, j'aime bien mettre mes personnages dans une boîte et je les laisse faire ce qu'ils veulent dans la boîte. Je veux pas qu'ils sortent de la boîte. S'ils sortent, je les rattrape et je les remets dedans.
C'est ce que je dis.
Je les regarde, je dis voilà, bah c'est comment vous vous aimez, alors c'est quoi l'amour et comment ça se passe et en fait ça devient une histoire qui m'intéresse plus que l'histoire du climat, mais c'est tellement adapté, mes personnages, leurs réactions sont tellement adaptées à ce qui se passe avec la planète. On pourrait croire que la planète, c'est aussi pour un homme, c'est ça, son côté féminin, c'est le planète qui va être si belle, comme les femmes qui croisent dans la rue. La planète, elle est magnifique, elle est belle. Moi, je regarde Ushaya quand je sais pas quoi faire et que j'ai envie de me nettoyer un peu l'esprit. Mais quelle beauté ce monde, c'est incroyable. Et nous, quelle brutalité, quelle cruauté on a vis-à-vis des autres populations qui l'habitent. Par exemple, je lisais il y a pas longtemps un magnifique bouquin de Richard Powers qui s'appelle L'Arbre Monde.
Bien sûr.
Et lui, c'est un fantastique écrivain, mais comment dire, là, on va passer sur un autre sujet, c'est-à-dire pourquoi est-ce qu'à un moment, il y a des écrivains qui arrivent à prendre en main ou prendre à bras-le-corps, et c'est souvent des Américains, qui arrivent d'un seul coup à vous parler du climat, à vous parler de plein de choses comme ça, où il faudrait à un écrivain un peu sérieux faire des enquêtes. Et ce genre d'enquête, le climat, c'est pas rien du tout, hein, parce que c'est l'air qu'on respire, c'est tout. Hein, voilà. Un écrivain français, il peut pas faire ça. Quand Richard Powers vous raconte qu'il met 7 ans à écrire un livre, parce qu'il y a, c'est un, du boulot, que c'est long, que c'est des gros livres, comment voulez-vous qu'un auteur français puisse tenir un foyer avec femme, enfants, loyer et compagnie, avec ce qu'on gagne? On n'a plus la possibilité, comme on l'avait à un moment, mais maintenant c'est fini, pour un écrivain de vendre des nouvelles dans un magazine, comme aux États-Unis, ils y arrivent encore. Vous êtes aux États-Unis écrivain résident, il y a plein d'écrivains résidents qui donnent des cours en même temps, donc ils sont pas riches, mais ils arrivent à vivre. En France, on n'a rien. Que dalle, on peut pas vendre de nouvelles, on peut pas. Donc moi, si je dépasse les un an et demi de travail sur un roman, bah après je fais comment pour vivre? Mon éditeur, c'est pas qu'il s'en fout, mais il dit attends, moi aussi, il faut que je fasse marcher la maison comme Dan fait marcher le laboratoire, ta da 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 da. Donc je comprends ces choses-là, mais je me dis ok, bah voilà. Et si un jour un éditeur me dit mais ça serait bien que tu nous fasses un gros bouquin de 600 ou 700 pages, je dirais d'accord, paye-moi 3 livres.
Alors 2030, c'est un roman militant ou c'est un roman d'amour?
C'est un roman d'amour, bien sûr. Ça peut pas être un roman militant. Mais non, je suis pas assez. Même quand j'étais jeune, ma jeunesse, c'était 68, par exemple. Pourquoi j'étais dans les manifs dehors en 68? Parce que les filles étaient dehors et qu'il faisait beau. C'était au mois de mai. C'était dans Paris et j'avais 18 ans ou 20 ans. C'était génial. Mais je suis pas du tout un politique. Je veux dire, je suis pas tombé dans le maoïsme. Je suis pas tombé dans ces trucs-là. Ça m'intéressait pas. Mon intérêt, c'était de travailler pendant un mois chez Gilbert Jeune pour gagner 1200 balles et partir aux États-Unis voir ce qui se passait là-bas. Parce que ce qui se passait là-bas, c'était pas la politique qui m'intéressait. C'était ce qui se passait dans les bouquins, c'était ce qui se passait au cinéma, c'était ce qui se passait dans la mode, c'était ce qui se passait dans la musique. Tout était là-bas.
Comme souvent dans vos romans, Philippe Jean, il y a des références musicales, justement. Mmh. Ici, j'en ai noté 4. Sun Ho, Mark Kozelek, Glasgow Jubilé de Bill Wells et Aidan Moffat, et Tonada del Cabrestero dans une version de Simone Diaz. Qu'est-ce que vous aimeriez qu'on écoute maintenant parmi ces titres ?
Ah bah celle qui me fait pleurer, c'est Simone Diaz.
Alors c'est parti.
Elle est à pleurer, celle-là.
Camino del llano viene, juntar en la soledad. Camino del llano viene, juntar en la soledad. El cabrestero cantando. Su copla en la madrugada, el cabrestero cantando. Su copla en la madrugada. Y el novillo se retira, como el novillo era toro. La vaca siempre lo mira, mariposa no vaya. La luna busca la sombra y no la puede encontrar. La luna busca la sombra y no la puede encontrar, porque la sombra se esconde. Detrás de la madrugada, porque la sombra se esconde, detrás de la madrugada.
Vous êtes bien à l'écoute de Littérature sans frontières sur RFI en compagnie de Philippe Djian, dont le nouveau roman s'intitule 2030 aux éditions Flammarion, un saut dans l'avenir qui nous attend avec quelques hypothèses de votre part. Plus de cancer, des tacobules, alors j'ai cru comprendre c'est des taxis déserts, voilà, des ambulances déserts, des conversations en visio essentiellement, il n'y a plus de téléphone, des hologrammes. La police qui se sert de filet pour arrêter les gens. Vous avez dû bien vous amuser à inventer ces nouvelles façons de vivre.
Je suis pas allé chercher très très loin. Le seul truc qui m'intéressait un petit peu, que j'ai pas développé, parce qu'encore une fois, il aurait fallu que j'approfondisse un peu, c'était cette idée qu'on va vous offrir des univers et avec des lunettes ou je sais pas quoi, vous pourrez sortir d'une rue de Paris triste et où il pleut et tout ça, et d'un seul coup, vous retrouvez sur une plage à Tahiti en train de vous baigner avec les plus belles filles du coin. Voilà. Bon. Donc, j'aimais bien cette idée là, qu'à un moment, vous pouvez vous payer d'autres vies.
Et plus de cancer, ça c'est formidable. Bah, dans 10 ans,
on va y arriver.
Vous êtes drôlement optimiste.
On va y arriver, si, on va y arriver. Vous allez voir le cancer, on va y arriver. Mais il y aura d'autres trucs, hein. Parce que regardez, avec le Covid, ce qu'on disait tout à l'heure à propos de ces complications dont on ne comprend pas très bien l'origine, ça sera peut-être ça le gros problème. Comment soigner ces gens-là qui sont jusque-là, on ne sait pas quoi leur donner comme médicament. Donc oui, il y aura plus le cancer, mais il y aura autre chose. Attendez, en ce moment, c'est pas pour rebondir sur le climat, mais ils sont en train de dire que depuis que le permafrost est en train de fondre, il y a toutes ces bêtes qui viennent, les mammouths de l'époque, qui sont en train de décongeler et qui sont peut-être remplis de virus. Ça, si ça nous tombe dessus, on va la sentir passer. Et puis là, le cancer, ça sera une petite rigolade.
Hein. Oui, je suis pas sûr qu'on tienne jusqu'à 2030, du coup.
Non, c'est pour ça 2010.
Donc il y a une vraie, une part de joie presque enfantine dans l'écriture à inventer des choses qui n'existent pas.
Si je prends le bon côté du côté enfantin, oui, il y a une espèce de fraîcheur là dans enfantin. C'est quelque chose qui appelle l'espoir, la nouveauté, la découverte, la lumière, enfin tous ces trucs-là. Donc si la littérature ça peut être ça, oui. Mais moi, ça se traduit beaucoup plus. Alors ça, c'est ma cuisine personnelle. Je veux dire, je suis plutôt un écrivain qui fait attention à la langue. C'est Stevenson qui m'a un peu bousculé là-dessus, Robert Louis Stevenson, qui expliquait que il faut pas confondre. C'est-à-dire qu'à un moment, l'imaginaire d'un écrivain, on peut pas y toucher. Il en a ou il en a pas. Il a une histoire dans la tête, il y a quelque chose. Ça, on peut rien, on peut pas trafiquer. La personne, il a beau se rouler par terre en s'arrachant les cheveux, s'il trouve pas d'histoire, ça marche pas. La seule chose que l'écrivain peut travailler, c'est sa langue. Et la langue, c'est la manière de regarder le monde aujourd'hui avec les bonnes lunettes. C'est-à-dire pas avec les lunettes du 19e, c'est-à-dire que si j'avais dans ma petite valise simplement les moyens d'écrire la belle langue du 19e, je n'arriverais pas à parler du monde d'aujourd'hui. Donc il y a une langue aujourd'hui qui se met en place et qu'un écrivain, aujourd'hui, mais contemporain, tout ça, devrait être la première chose à laquelle s'intéresser, puisque Tout le monde voit la même chose, en fait. Les scènes qu'on peut voir dans la rue ou dans sa vie, on a tous, il n'y a pas de nouveau depuis Shakespeare. Toutes les histoires, elles ont été plus ou moins inventées. Mais il y a une manière de regarder ces choses-là, et c'est ce que j'appelle un peu le faire un petit pas de côté. Mmh. Regarder les choses avec un angle, on change différemment l'angle. Et qu'est-ce qui fait changer l'angle? C'est la langue. C'est-à-dire qu'à un moment, vous devez, écrivain, avoir trouvé quel est l'outil qui vous permet de traduire cette espèce de mélodie qui est l'image du monde.
Et d'ailleurs, je fais une petite parenthèse, dans votre roman, entre guillemets futuriste, heureusement, il y a encore des librairies. Parce qu'on a bien compris que c'était des lieux que vous chérissez, dont vous ne pouvez pas imaginer une seconde la disparition.
Et c'est pour ça que c'est intéressant, c'est de montrer que le monde avance et en 2010, tout sera pas foutu par terre.
En 2030
En 2030, oui. Tout sera pas par terre. Peut-être qu'il y aura encore plus de librairies et des gens qui ne voudront plus lire sur des tablettes, qui voudront plus qu'il y ait des audiobooks ou c'est d'autres qui les lisent. Les gens, peut-être, vont revenir à la... Parce qu'ils ont qu'à ouvrir un bouquin, ils vont voir, ça sent bon, un livre. Hein.
Ouais.
Et quelle merveille que de mettre un pied dans l'univers d'une autre personne qui, d'un seul coup, vous a touché. C'est incroyable, c'est comme je préfère ouvrir un livre et rentrer dans l'univers d'un écrivain que de me payer un voyage au fin fond de je sais pas où. C'est incroyable et ça je pense pas que ça va disparaître.
Et donc vous racontez une scène de signature d'auteur et avec cette petite phrase que je n'ai pas pu m'empêcher de souligner, évidemment, un écrivain bien élevé est une chose rare. Qu'est-ce que ça veut dire, Philippe Duhan?
Qu'est-ce que ça veut dire? Non, je trouve qu'il y a beaucoup. J'ai souvent pensé que j'étais un petit peu, mais c'est parce que j'ai démarré ma carrière entre guillemets d'écrivain un petit peu à la marge. Je veux dire, j'étais pas dans ce milieu-là, ça m'intéressait pas. Et je trouvais que les auteurs étaient souvent des gens qui essayaient de se mettre beaucoup trop en avant par rapport à ce que j'attendais d'eux. Et il y a des gens formidables, hein. Mais je trouvais que dans la majeure partie, tout le monde court après les émissions, tout le monde court après les ventes, tout le monde court après la télé, tout le monde court. C'est un manque de savoir-vivre, je trouve. C'est déjà se prendre pour plus qu'on est. Voilà, je trouve que oui, c'est rare les écrivains qui sont...
Donc vous êtes en train de me dire que la majorité, c'est plutôt des écrivains malotrus, en fait. Et qu'un écrivain bien élevé, ce serait quoi, un écrivain bien élevé?
Vous allez me forcer à porter un jugement sur mes camarades. Donc
non, pas sur vos camarades, mais par exemple... Alors vous, Philippe Duhan, vous êtes un écrivain bien élevé ou pas?
Ça dépend, il faut qu'on s'entende sur le côté bien élevé. Je suis pas bien élevé parce que là, au lieu de mettre une chemise et une cravate, et je suis pas rasé, donc je suis pas bien élevé.
Ça,
mais après,
c'est...
je me dis, est-ce que c'est grave, ou est-ce que c'est embêtant, ou est-ce que c'est... Non, bien élevé, c'est respecter les autres. Quelqu'un qui respecte pas un autre, il est forcément mal élevé, c'est un malotru. C'est pour ça que je veux pas avoir des polémiques avec des gens qu'a priori j'apprécie pas, comme ces intellectuels français de mon âge. J'ai pas envie de leur rentrer dans le chou. Ils sont sans intérêt pour moi.
Mais du coup, vous devez vous sentir un peu seul, non? Ou c'est pas grave?
Moi, j'ai des amis quand même, et j'ai une famille.
Mais je parle de...
Non, j'ai des très très bons amis écrivains.
Écrivains, d'accord.
Ah bah oui. Je vais pas les citer là, parce que les autres vont être jaloux. Oui, bien sûr que j'ai des très bons amis écrivains. À tel point que j'ai mis en place à Biarritz un prix littéraire avec Bec Bédé, avec Isabelle Carré.
Le
avec,
prix de la Maison Rouge.
Oui, bah voilà. Donc non, c'est parce que c'est des gens avec lesquels je m'entends bien. Je mettrais pas en place un prix littéraire si c'est pour être avec une bande d'emmerdeurs et qui... Non, on se comprend, on est d'accord. Là, par exemple, quand on a remis le prix à Dorothée Janin, tout le monde est tombé à plat ventre en disant « mais c'est génial, ça ». Et moi, je leur ai dit, je vous préviens, si vous donnez pas le prix à Dorothée Janin, moi, je suis le président, j'ai deux voix, je m'en vais.
Alors... Ça nous permet aussi de parler avec vous de votre écriture et de rappeler à nos auditeurs que pour vous, c'est la langue, le style qui prime sur l'histoire et ce lien particulier que vous avez avec la typographie dont vous avez banni tous les signes à part le point. En d'autres termes, pas de point d'interrogation, d'exclamation, de suspense, jamais de tiré pour les dialogues, pas de chapitre.
Pas d'italique, pas de...
Voilà, plus rien qui ne pourrait orienter peut-être la lecture. Est-ce que ça veut dire, Philippe Duhan, que c'est le fluide que vous privilégiez?
C'est ça, mais c'est aussi le fait que si la littérature a besoin de ce qui n'est pas littérature, c'est une faiblesse. Employer l'italique, c'est une faiblesse. Faire un petit truc, un petit blanc devant un paragraphe, à quoi ça sert? C'est pour faire plaisir au lecteur d'avoir son petit blanc, il est content le monsieur, il est à l'aise, il est bien assis? Non, c'est pas l'idée. S'il doit y avoir un blanc, c'est à la fin du paragraphe, c'est pas au début. Est-ce qu'on a besoin, quand il y a le retour à la ligne, est-ce qu'on a besoin pour comprendre si la personne dit « sortons dîner », dit-il? Est-ce qu'on a besoin d'avoir un petit tiret pour dire « attention les gars, vous êtes en train de lire un dialogue ». On prend les écrivains pour des imbéciles.
Et les lecteurs aussi.
Oui, pardon, c'est les lecteurs, je pensais d'abord aux lecteurs. Et en même temps de me dire, est-ce que la littérature est tellement faible qu'on est obligé d'employer tous ces signes-là? Et pour moi, la typographie, c'est pas de la littérature, c'est pas de la langue, c'est un autre truc, on se sert de ça, voilà. À un moment, pour rigoler, j'avais même fait, je me rappelle plus dans lequel de mes livres, je commençais chaque paragraphe par, vous savez, ce petit signe qu'on voit dans le métro ou partout, c'est ce petit doigt qui vous indique qu'il faut aller par là. Ben, je disais, vous voulez ça? Vous avez besoin de ça? Ben, je vais vous mettre ça devant tous mes paragraphes, comme ça. Mais oui, mais attendez, à un moment...
Donc, il y a vraiment du jeu aussi.
Ah ben, bien sûr. Ouais. Non, mais moi, je suis quelqu'un qui aime jouer, je suis quelqu'un qui aime la vie, qui aime vivre et qui aime... Oui, le jeu, mais en même temps, ça grandit l'homme, quelque part, le jeu. C'est cette manière de s'abandonner et de se défaire de ses frusques quand on veut vraiment s'amuser. Ben voilà, ben, mais c'est toute ma vie qui est comme ça, donc... Je sais même pas pourquoi je suis venu à la littérature, moi.
Mais non, je sais pas. La littérature le sait.
Si, c'est parce que j'ai adoré, c'est parce que j'ai jamais eu, à mon avis, d'émotions aussi intenses qu'à travers la littérature.
Comment est-ce que vous vous voyez dans 10 ans, Philippe Djian, en 2030, donc?
Le même. Peut-être avec un peu plus de cheveux blancs. Si je continue à dérouler la bobine, il n'y a rien qui va changer en moi. Si, évidemment que dans 10 ans, je serais certainement pas très beau à voir. J'en sais rien. Je suis déjà peut-être pas beau, ouais. Non, je vais mourir, et puis, bah voilà, et puis mes enfants sont là, et je pense pas qu'on aura, dans 10 ans, inventé la pilule de l'immortalité, donc.
Mais qu'est-ce que vous aimeriez qui ait vraiment changé pour le coup dans 10 ans? Je sais pas, un progrès scientifique pas. Ou.
Bah non, je vais vous dire tous les progrès scientifiques, bah oui, si on les emploie bien, je suis pour. Je suis pas contre le progrès, je suis pas contre la croissance si elle est bien utilisée. Je suis pas. Non, qu'est-ce que je veux? Je veux que les gens se parlent, que je veux que les gens se respectent, je veux que les gens s'amusent ensemble, je veux aussi qu'ils se battent. Pourquoi? C'est de temps en temps, ça fait du bien, mais pas que ça. Je pense qu'il faut déjà se connaître, hein. C'est Montaigne, c'est connais-toi toi-même et tout ça. Donc, connais-toi toi-même et après, peut-être que tu seras un peu plus intelligent dans ta manière de vivre avec les autres. Mais essayer de comprendre. Parce que moi, j'ai une espèce de confiance aveugle avec la fiction. C'est l'écrivain qui doit se servir du chaos du monde qui l'entoure pour en faire un truc qu'on comprend, qui soit compréhensible. C'est, en fait, la fiction, elle remet de l'ordre dans le chaos. Et nous, si on imagine tout ce qui nous tombe sur la tête dans une journée, les sons, les bruits, la lumière, les informations, tout ça, c'est un chaos indescriptible. Mais si moi je vous écris une histoire de cette journée-là, bah, la fiction vous permettra d'ordonner ce chaos. Et c'est ça le travail d'un écrivain. C'est pour ça que, pour moi, c'est pas, tiens, je suis écrivain parce que j'aurais pu faire autre chose. Non, parce que je trouve qu'aujourd'hui, c'est ces gens-là qui m'ont, ceux que j'ai aimés et qui m'ont parlé, qui m'ont ouvert les yeux sur le monde dans lequel je vis et dans lequel éventuellement je peux avoir envie de vivre. Donc j'ai trouvé que la fiction, mais il n'y a pas que ça. Je pense que pour vivre en société, il faut que chaque Pierre soit un écrivain, un journaliste, un médecin, un juge, tout ça. C'est comme ça qu'on fait une société qui s'entend. Donc tout le monde est important. C'est pas que les écrivains qui sont au-dessus du panier. Alors nous, on a cette mauvaise idée, parce que cette mauvaise image, parce que la France, aïe, 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 la littérature, les grands auteurs, c'est évidemment français, il y en a pas d'autres, à tel point que tous nos présidents ont voulu être reconnus aussi comme écrivains avant d'être reconnus comme président. Donc il y a un espèce de truc, en France, faut pas toucher à la langue, faut pas rien faire. Mais ils se rendent pas compte que tous ces gens qui veulent pas qu'on touche à la langue, ils sont en train de la tuer. Ils vont laisser des gens continuer à écrire des romans exprès pour les smartphones, qui vont écrire, au lieu d'écrire C, O, S, T, apostrophe, O, S, T, ils vont écrire C, puis ça suffira. C'est à nous de dire, les écrivains, est-ce qu'on dit OK ou on dit non, c'est pas la peine, faut pas faire ça. Donc on doit, nous, être les gardiens de cette mélodie qui est la représentation du monde dans lequel on vit.
Eh bien, nous allons rester sur cette belle phrase. Merci beaucoup, Philippe Djian. Je rappelle donc que vous êtes l'auteur de ce nouveau roman qui s'intitule 2030. Et puis aussi, je veux absolument signaler également aux éditions Flammarion ce nouveau numéro de cette formidable revue Décapage dont vous faites la couverture actuellement, avec un autoportrait littéraire très instructif, une quarantaine de pages, un dossier où vous vous livrez sans langue de bois, comme d'habitude, et passionnant pour comprendre les coulisses de l'écrivain que vous êtes depuis les années 80 et tous vos premiers livres, 37 de le matin et tout ce qui a suivi et qui arrive à ce Philippe Djian d'aujourd'hui. Merci beaucoup.
C'est moi qui vous remercie.
Littérature sans frontières. Vous pouvez réécouter cette émission sur le site rfi.fr en cliquant sur l'onglet Podcast. Et pour ne manquer aucun numéro de votre magazine, vous pouvez vous abonner à Littérature sans frontières dans votre application préférée et nous laisser un commentaire.